Chapitre 14. Question. La lecture de ces paroles me remplit d'émerveillement et de vénération. Merci d'être ici, ainsi avec moi. Merci d'être ici avec nous tous, car des millions de gens ont lu ces dialogues et des millions d'autres le feront. Et le fait que tu viennes dans nos cœurs est un cadeau époustouflant. Réponse. Mes êtres les plus chers, j'ai toujours été dans vos cœurs. Je suis seulement heureux que vous puissiez maintenant m'y sentir. J'ai toujours été avec vous. Je ne vous ai jamais quitté. Je suis vous, et vous êtes moi, et nous ne serons jamais séparés, jamais, car ce n'est pas possible. Question. Eh, minute, on dirait du déjà-vu. N'a-t-on pas déjà prononcé toutes ces paroles? Réponse. Bien sûr. Relis le début du chapitre 12. Seulement maintenant, elles ont encore plus de sens que la première fois. Question. Ne serait-ce pas épatant si le déjà-vu était réel, et si nous étions vraiment parfois en train de faire à nouveau l'expérience de quelque chose afin d'en tirer plus de sens? Réponse. Qu'est-ce que tu crois? Question. Je crois que c'est exactement ce qui se produit parfois. Réponse. À moins que non. Question. À moins que non. Réponse. Bien, bravo encore une fois. Tu arrives si vite à comprendre des choses considérables, c'est fou. Question. Oui, n'est-ce pas? Alors, j'ai besoin de te parler de quelque chose de sérieux. Réponse. Oui, je sais. Vas-y. Question. Quand l'âme se joint-elle au corps? Réponse. Quand, selon toi? Question. Quand elle le choisit? Réponse. Bien. Question. Mais les gens désirent une réponse plus nette. Ils veulent savoir quand commence la vie telle que nous la connaissons. Réponse. Je comprends. Question. Alors, quel est le signal? Est-ce lorsque le corps émerge du ventre maternel, la naissance physique? Est-ce au moment de la conception, de la jonction physique des éléments de la vie? Réponse. La vie n'a pas de commencement, puisqu'elle n'a pas de fin. La vie ne fait que s'étendre, créer de nouvelles formes. Question. Ce doit être comme une matière gluante dans ces lampes de lave chauffantes, si populaires dans les années 60, où de grosses gouttes reposaient rondes et molles au fond, puis s'élevaient à cause de la chaleur, se séparaient et formaient de nouveaux globules, se rejoignaient en haut, cascadaient ensemble pour former des gouttes encore plus grosses et recommençaient. Il n'y avait jamais de nouvelles gouttes dans le tube. Tout cela constituait la même matière, qui se reformait en ce qui ressemblait à une chose nouvelle et différente. Les variétés étaient sans fin. Il était fascinant d'observer le processus se répéter sans cesse. Réponse. C'est une merveilleuse métaphore. Il en va ainsi avec les âmes. L'âme unique, qui est vraiment tout ce qui est, se reforme en portions de plus en plus petites d'elle-même. Toutes les parties étaient là au commencement. Il n'y avait pas de parties nouvelles, mais seulement des portions du tout, qui a toujours été, se reformant en ce qui ressemble à des parties nouvelles et différentes. Question. Dans une brillante chanson pop, écrite et interprétée par Joan Osborne, il est demandé « Eh, si Dieu était l'un de nous ?» Juste un plouc, comme l'un de nous ? Je vais devoir lui demander de modifier le vers pour le suivant. « Et si Dieu était l'un de nous ? Juste une goutte, comme l'un de nous ?» Réponse. « Ah, c'est très bien. Et tu sais, sa chanson était brillante. Partout, elle a provoqué des gens qui ne pouvaient supporter l'idée que je ne sois pas mieux que l'un d'entre eux. » Question. Cette réaction est un commentaire intéressant, pas tellement sur Dieu, mais aussi sur la race humaine. Si nous trouvons blasphématoire que Dieu soit comparé à l'un d'entre nous, qu'est-ce que cela dit de nous? Réponse. Quoi, en effet? Question. Mais tu es vraiment l'un de nous. C'est exactement ce que tu dis ici. Alors Joan avait raison. Réponse. Certainement, elle avait profondément raison. Question. Je veux revenir à ma question. Peux-tu nous indiquer quoi que ce soit sur le moment où commence la vie telle que nous la connaissons? À quel moment l'âme entre-t-elle dans le corps? Réponse. L'âme n'entre pas dans le corps. Le corps est enveloppé par l'âme. Tu te rappelles ce que j'ai dit auparavant. Le corps n'est pas la demeure de l'âme, c'est l'inverse. Tout est toujours en vie. Rien n'est mort. Cet état d'être n'existe pas. Ce qui est toujours vivant se donne tout simplement une nouvelle forme, une autre forme physique. Cette forme est chargée d'énergie vivante, de l'énergie de la vie, toujours. La vie, si tu nommes la vie l'énergie que je suis, est toujours là. Elle n'est jamais absente. Puisque la vie ne finit jamais, comment peut-il y avoir un moment où elle commence? Question. Allons, aide-moi, tu sais où j'essaie d'en venir? Réponse. Oui, je sais. Tu veux que j'entre dans le débat sur l'avortement? Question. Oui, c'est ça, je l'avoue, écoute. Je suis avec Dieu et j'ai la chance de poser la question monumentale. Quand la vie commence-t-elle? Réponse. Et la réponse est si monumentale que tu ne pourras pas l'entendre. Question. Et c'est toujours? Réponse. Elle ne commence jamais. La vie ne commence jamais, puisqu'elle ne finit jamais. Tu veux aboutir aux détails technologiques de la biologie pour concevoir une règle fondée sur ce que tu veux appeler la loi de Dieu, sur la façon dont les gens devraient se comporter, pour ensuite les punir s'ils ne se conduisent pas ainsi? Question, qu'y a-t-il de mal à cela? Cela nous permettrait de tuer impunément des médecins sur les aires de stationnement des cliniques? Réponse, oui, je comprends. Pendant des années, vous m'avez utilisé et vous avez utilisé ce que vous avez présenté comme étant mes lois pour justifier toutes sortes de comportements. Question. Oh, allons, pourquoi ne dis-tu pas carrément que le fait de mettre fin à une grossesse est un meurtre? Réponse. Mais vous ne pouvez rien tuer, ni personne. Question. Non, mais on peut mettre fin à son individualisation, et dans notre langage, c'est tuer. Réponse. Vous ne pouvez pas mettre fin au processus par lequel une partie de moi s'exprime individuellement, d'une certaine façon, sans l'accord de la partie de moi qui s'exprime ainsi. Question. Quoi? Que dis-tu? Réponse. Je dis que rien n'arrive contre la volonté de Dieu. La vie et tout ce qui se produit est une expression de la volonté de Dieu, c'est-à-dire de votre volonté, devenue manifeste. Dans ce dialogue, j'ai dit que votre volonté est ma volonté. C'est parce que nous ne faisons qu'un. La vie est la volonté de Dieu qui s'exprime parfaitement. Si une chose était contre la volonté de Dieu, elle ne pourrait arriver. Selon la définition de qui et de ce qu'est Dieu, elle ne pourrait survenir. Crois-tu qu'une seule âme puisse décider d'une chose, d'une façon quelconque, pour une autre? Crois-tu qu'en tant qu'individu, vous puissiez vous atteindre mutuellement si c'est contre la volonté de l'autre? Une telle conviction serait fondée sur l'idée que vous êtes séparés les uns des autres. T'imagines-tu pouvoir toucher le moindrement la vie contre la volonté de Dieu? Une telle croyance devrait être fondée sur une idée que vous êtes séparés de moi. Ces idées sont fausses. Il est incommensurablement arrogant de votre part de croire que vous puissiez affecter l'univers sans que l'univers soit en accord. Vous avez ici affaire à des forces puissantes, et certains d'entre vous s'imaginent plus puissants que la force la plus puissante, mais ce n'est pas le cas. Et vous n'êtes pas non plus moins puissant que la force la plus puissante. Question. Tu veux dire que je ne peux tuer personne sans sa permission? Tu veux dire que sur un certain plan, tous ceux qui ont jamais été tués avaient accepté de l'être? Réponse. Si tu vois et évalues les choses en termes terrestres, rien de cela n'aura de sens pour toi. Question. Je ne peux m'empêcher de penser en termes terrestres. Je suis ici et maintenant, sur la terre. Réponse. Je te dis ceci. Tu es dans ce monde, mais tu n'en fais pas partie. Question. Alors ma réalité terrestre n'est pas la réalité? Réponse. Le croyais-tu vraiment? Question. Je ne sais pas. Réponse. Tu n'as jamais pensé, il se passe quelque chose de plus grand? Question. Eh bien, oui, j'ai sûrement pensé ça. Réponse. Eh bien, voilà ce qui se passe. Je suis en train de te l'expliquer. Question. D'accord, je pige. Alors, j'imagine que je peux tout simplement aller tuer quelqu'un parce que je n'aurais pas pu le faire sans son consentement. Réponse. En fait, la race humaine agit ainsi. Il est intéressant de voir que vous avez autant de difficultés à cet égard, mais que vous continuez de faire comme si c'était vrai de toute façon. Ou pire encore, que vous tuez des gens contre leur volonté comme si cela n'avait aucune importance. Question. Bon, bien sûr que c'est important. Seulement, ce que nous voulons a plus d'importance. Tu ne saisis pas? À l'instant où nous, humains, tuons quelqu'un, nous ne nous disons pas que c'est sans importance. Ce serait désinvolte que de croire cela. Par contre, nous pensons que ce que nous voulons a davantage d'importance. Réponse. Je vois. Alors il est plus facile pour toi d'accepter qu'il soit correct de tuer les gens contre leur volonté. Cela, tu peux le faire en toute impunité. Ce que tu trouves mauvais, c'est de le faire parce que c'est leur volonté. Question. Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas comme ça que les humains pensent. Réponse. Non. Permets-moi de te montrer à quel point certains d'entre vous sont hypocrites. Vous dites qu'il est correct de tuer quelqu'un contre sa volonté, pourvu que vous ayez une raison bonne et suffisante de vouloir sa mort, comme en temps de guerre, par exemple, ou au cours d'une exécution, ou s'il s'agit d'un médecin dans le parc de stationnement d'une clinique d'avortement. Mais si l'autre personne croit avoir une raison bonne et suffisante de mourir, vous ne pouvez pas l'y aider. Ce serait un suicide assisté, et ça serait mal. Question, tu te moques de moi? Réponse, non, tu te moques de moi. Tu dis que j'approuverais le fait que tu élimines quelqu'un contre sa volonté, et que je condamnerais le fait que tu assassines quelqu'un en accord avec sa volonté. C'est malsain. Cependant, non seulement tu ne vois pas le caractère malsain, mais tu prétends que ceux qui soulignent ce caractère malsain sont malades. Vous êtes sains d'esprit et eux ne sont que des fauteurs de troubles. Et c'est le genre de logique tordue à partir de laquelle vous construisez des vies entières et des théologies complètes. Question. Je ne l'ai jamais vu tout à fait de cette manière. Réponse. Je te dis ceci. Le temps est venu pour vous de voir les choses d'une nouvelle façon. C'est le moment de votre renaissance en tant qu'individu et en tant que société. Vous devez recréer votre monde avant de le détruire par vos folies. Maintenant, écoute-moi. Nous ne faisons tous qu'un. Nous ne sommes qu'un. Tu n'es pas séparé de moi et vous n'êtes pas séparés les uns des autres. Tout ce que nous le faisons de concert, les uns avec les autres. Notre réalité est une réalité co-créée. Si tu mets fin à une grossesse, c'est nous qui mettons fin à une grossesse. Votre volonté est ma volonté. Aucun aspect particulier de la divinité n'a de pouvoir sur aucun autre aspect de la divinité. Il n'est pas possible pour une âme d'en toucher une autre contre sa volonté. Il n'y a ni victime ni bourreau. Tu ne peux comprendre cela de ton point de vue limité, mais crois-moi, il en est ainsi. Il n'y a qu'une raison d'être, de faire ou d'avoir quoi que ce soit. C'est d'en faire une affirmation directe de qui tu es. Si qui tu es en tant qu'individu ou en tant que société est qui tu choisis d'être et qui tu veux être, tu n'as aucune raison de changer quoi que ce soit. Si par contre, tu crois qu'une expérience plus grandiose attend d'être vécue, une expérience de la divinité encore plus grande que celle qui se manifeste actuellement, alors passe à cette vérité. Puisque nous sommes tous en co-création, il peut nous être utile de faire de notre mieux pour indiquer aux autres la voie que certaines parts de nous désirent prendre. Tu peux montrer la voie en faisant la démonstration de la vie que tu aimerais créer et en invitant les autres à suivre ton exemple. Tu peux même dire « Je suis la vie et la voie, suivez-moi ». Mais sois prudent, certaines personnes ont été crucifiées pour s'être permis de telles affirmations. Question : merci, j'entends l'avertissement, je resterai discret. Réponse : je vois que tu arrives très bien. Question : eh bien, quand on prétend mener une conversation avec Dieu, il n'est pas facile de rester discret. Réponse : comme d'autres l'ont découvert. Question : ce pourrait être une bonne raison de me taire. Réponse : c'est un peu tard. Question : alors à qui la faute ? Réponse : je vois ce que tu veux dire. Question : d'accord, je te pardonne. Réponse : vraiment ? Question : oui. Réponse : comment veux-tu me pardonner ? Question : parce que je peux comprendre pourquoi tu l'as fait. Je comprends pourquoi tu es venu à moi et pourquoi tu as entamé ce dialogue. Et quand je comprends pourquoi une chose a été faite, je peux pardonner toutes les complications qu'elle a pu causer ou créer. Réponse : alors c'est intéressant. Si seulement tu pouvais penser que Dieu est un être aussi magnifique que toi. Question : touché. Réponse : tu entretiens une relation étrange avec moi. D'un côté, tu crois que tu ne pourras jamais être aussi magnifique que moi, et de l'autre, tu crois que je ne peux pas être aussi magnifique que toi. Ne trouves-tu pas cela intéressant ? Question : c'est fascinant. Réponse : c'est parce que tu crois que nous sommes séparés. Ces pensées te quitteraient si tu croyais que nous ne faisons qu'un. Voilà la différence principale entre ta culture, une culture encore bébé, vraiment une culture primitive, et les cultures hautement évoluées de l'univers. La différence majeure est la suivante. Dans les cultures hautement évoluées, tous les êtres conscients savent clairement qu'il n'y a aucune séparation entre eux et ce que tu appelles Dieu. Ils savent aussi avec certitude qu'aucune séparation n'existe entre eux-mêmes et les autres. Ils savent que chacun fait une expérience individuelle du tout. Question. Ah, c'est bien. Tu vas maintenant traiter des sociétés hautement évoluées de l'univers. C'est ce que j'attendais. Réponse. Oui, je crois qu'il est temps d'explorer cela. Question. Mais auparavant, il me faut revenir une dernière fois sur la question de l'avortement. Dis-tu vraiment que, parce qu'il ne peut rien arriver à l'âme humaine qui soit contre sa volonté, il est correct de tuer des gens ? Tu n'approuves pas l'avortement ? Ou tu ne nous donnes pas une porte de sortie là-dessus, hein ? Réponse. Je n'approuve ni ne condamne l'avortement, pas plus que je n'approuve ni ne condamne la guerre. Dans tous les pays, les gens croient que j'acquiesce à la guerre qu'ils mènent et que je condamne la guerre que mène leur adversaire. Dans tous les pays, les gens s'imaginent avoir Dieu de leur côté. Chaque cause tient le même raisonnement pour acquis. En effet, chaque personne ressent la même chose, ou du moins espère que tel est le cas, chaque fois que l'on prend une décision ou que l'on effectue un choix. Et sais-tu pourquoi toutes les créatures croient que Dieu est de leur côté ? Parce que je le suis. Et toutes les créatures ont une connaissance intuitive de ce fait. Ce n'est qu'une façon de dire « ta volonté à ton égard et ma volonté à ton égard ». Et cela, ce n'est qu'une manière de rappeler que je vous ai tous accordé le libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre si le fait de l'exercer d'une certaine manière engendre la punition. Ce serait là une parodie du libre arbitre, une contrefaçon. Dès lors, en ce qui concerne l'avortement ou la guerre, le fait d'acheter telle voiture ou d'épouser telle personne, d'avoir des relations sexuelles ou non, de faire votre devoir ou pas. Il n'y a ni bien ni mal. Et je n'ai aucune préférence en la matière. Vous êtes satisfait dans un processus de définition de vous-même? Chaque geste est un geste d'auto-définition. Si vous êtes satisfait de la forme que vous vous êtes donnée, si cela vous est utile, vous continuerez ainsi. Si vous ne l'êtes pas, vous cesserez. Cela s'appelle l'évolution. Le processus est lent parce que, à mesure que vous évoluez, vous continuez de changer d'idée à propos de ce qui vous est vraiment utile. Vous continuez de modifier vos concepts du plaisir. Rappelle-toi ce que je t'ai dit plus tôt. Tu peux déceler le degré d'évolution d'une personne ou d'une société selon la définition que cet être ou cette société accorde au plaisir. Et j'ajouterai, selon ce qu'il ou elle trouve utile. S'il te semble utile d'aller à la guerre et de tuer les autres, fais-le. S'il t'est utile de mettre fin à une grossesse, fais-le. La seule chose qui change à mesure que tu évolues, c'est l'idée que tu te fais de ce qui te sert. Et elle est fondée sur ce que tu as l'impression d'essayer de faire. Si tu veux aller à Seattle, rien ne te sert d'aller à San José. Il n'est pas mauvais du point de vue moral d'aller à San José. Cela ne t'est pas utile, tout simplement. La question de ce que tu essaies de faire, alors, devient une question de première importance. Non seulement dans ta vie en général, mais à chaque instant de ta vie en particulier. Car c'est à chaque instant de vie qu'une vie se crée. Tout cela a été exposé de façon très détaillée au début de notre dialogue sacré, que tu as appelé tome 1. Je le répète ici parce que tu sembles avoir besoin d'un rappel. Sinon, tu ne m'aurais jamais posé la question sur l'avortement. Quand tu commenceras à envisager ton avortement, ou quand tu penseras à fumer cette cigarette, ou quand tu te prépareras à faire frire et à manger cet animal, et quand tu seras tout près de couper le chemin à un conducteur dans la circulation, que l'action soit grande ou petite, que le choix soit majeur ou mineur, il n'y a qu'une question à envisager. Est-ce qui je suis vraiment? Est-ce qui je choisis maintenant d'être? Et comprends ceci, aucune action n'est dépourvue de conséquences. Tout a une conséquence. La conséquence, c'est qui est ce que tu es. Voilà ta réponse à la question de l'avortement. Voilà ta réponse à la question de la guerre. Voilà ta réponse à la question du tabac, à la question de la viande, et à toute question que tu t'es jamais posée sur ton comportement. Chaque geste est un geste de définition de soi. Tout ce que tu penses, dis et fais, déclare, voici qui je suis.